Entre les lignes, le podcast de L'Équipière qui raconte le football féminin du vestiaire au terrain.
Bonjour, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Entre les lignes, le podcast de L'Équipière. Troisième épisode, dernier de l'année 2020. C'est donc un épisode pour faire un bilan à mi-saison. Un bilan en France, mais aussi à l'étranger. Quel club a tiré son épingle du jeu? Qui va devoir cravacher? Qui ou quelles sont là ou les belles surprises, les déceptions? Est-ce qu'il y a une remise en cause de l'ordre établi? Est-ce qu'on va aussi revoir enfin un monde de sport sans Covid? Autant de questions auxquelles on va tenter d'apporter des réponses. Et pour ça, ça mérite une team de choc, évidemment, avec tout d'abord notre consultante pour cet épisode. Quasiment toute une carrière à Juvisy, à l'exception de quelques années en Bretagne, du côté de Saint-Brieuc. Triple championne de France, 59 sélections en équipe de France, où elle a longtemps formé la charnière centrale des Bleus avec la sélectionneur actuelle, Corinne Diacre. Désormais consultante pour Canal+, pour la D1, mais pas que. On a aussi pu vous entendre sur la Première Ligue, c'est d'ailleurs le cas en ce moment, hein, c'est le Boxing Day. Bonsoir Aline Riera.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous. À entendre Anthony Tobelem, je crois, je ne sais plus qui est avec vous, qui commentait Manchester United Leeds avec vous. Chaque fois que vous commentez, c'est farandole de but, apparemment.
J'ai fait deux fois un 7-2, le Aston Villa-Liverpool, 7-2 pour Aston Villa, qui était un gros coup de tonnerre parce que c'était une défaite de Liverpool dont on n'avait pas l'habitude. Et puis, effectivement, ce 7-0... Liverpool, voilà, donc il y a toujours du spectacle, que ce soit Manchester, que ce soit Liverpool en général. J'ai rarement des 0-0.
C'est les amoureux du spectacle vous remercient.
Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, un petit mot avant de commencer, entre parenthèses, entre vous, Laure Boulot, Jessica Ouara, vous n'êtes pas cantonnés à la D1 sur Canal+, ce qui est bon signe pour la diversité, la qualité des interventions, des intervenantes, et aussi pour la place des femmes dans le football et le sport.
Je crois que c'est un choix éditorial de Canal, c'est avant toute chose de faire un pool de consultants avec à l'intérieur des consultantes que vous avez citées, et on est à disposition de Canal pour commenter les footballs, les pratiques diverses, donc vous l'avez dit, la D1, mais aussi la Première Ligue, la Ligue 1 pour Canal Afrique. Ça peut être le National aussi sur site ou en cabine, donc voilà, on est là et on est utilisé par Canal sur différents matchs, différentes pratiques, parce que Canal n'a pas envie d'avoir une consultante D1 qui soit cantonnée à ça, mais d'avoir une consultante qui rentre dans ce groupe de consultants mis à disposition pour la chaîne.
Eh ben, c'est très bien pour le football et pour la qualité, la diversité des interventions. Alors pour cet épisode, on ne vous sollicitera que sur la D1, dont vous êtes l'une des observatrices les plus avisées, puisque vous la commentez chaque semaine pour Canal. Avec moi aussi, toute une team de L'Équipière, en fait presque tout le comité directeur, en fait, chacun ayant sa thématique. Antoine Chaussa, Marie Diémé, Léo Kester, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous tous les trois, vous nous ferez un petit peu le tour des stades en Europe. Et puis Inès Roy-Levanovic, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Toi aussi, tu vas nous faire un petit passage en Europe, mais tu as aussi des sujets de société à évoquer, car évidemment, l'évolution de la place des femmes dans le football va de pair avec des évolutions sociétales. Et il y en a eu cette année, on en parlera. Merci à tous d'être présents. L'épisode 3 d'Entre les lignes, c'est parti.
Entre les lignes.
On commence par la D1, on va faire un petit point sur le classement d'abord. Le PSG est en tête, ce qui est à la fois un événement et un non-événement, car c'est une machine, hein, le PSG, faite pour cette place. Mais cette place, ça a souvent été Lyon qui l'occupait. Or, on y reviendra, le PSG est enfin venu à bout de Lyon il y a un mois, 1-0, et occupe la tête donc avec 31 points, un point devant les Lyonnaises et leurs 30 points. Derrière, dans ce qui est un peu l'autre championnat, Bordeaux est 3e avec 23 points, Montpellier 4e, 19 points, Fleury 5e, 18 points, le Paris FC 6e, 15 points, Guingamp 7e avec 13 points, Dijon 8e, 13 points aussi, et Reims 9e avec 11 points. Et dans le trio du bas, Soyaux 10e avec 7 points, Issy 11e avec 6 points, et Le Havre 12e et dernier avec seulement 4 petits points. Le Havre qui vient tout juste de limoger son coach Thierry Huvenard. Un mot d'abord, Aline Riera, qu'est-ce que vous retenez de cette première partie de saison, des matchs que vous avez pu commenter tout au long de cette première partie d'année?
J'ai envie de dire déjà, sur le classement que vous avez donné, c'est qu'on est à la moitié des matchs, on est à l'intersaison, à la mi-saison hivernale, et il y a du suspense à tous les niveaux. Vous l'avez dit, la position, la tête du championnat est exceptionnellement tenue par le Paris Saint-Germain qui lutte depuis plus d'une dizaine d'années pour essayer d'aller glaner un titre. Lyon ne leur laisse que quelques miettes. Hein. C'est un titre de champion de France en 2018. C'est tout comme titre ce qu'a laissé Lyon au niveau national. Derrière, vous avez Lyon qui lutte effectivement pour ces deux places. Ensuite, vous avez pour la première fois cette année la troisième place qui est qualificative pour la Champions League. Donc là, vous avez un deuxième championnat qui se met en place. Vous avez cité Bordeaux, vous avez cité Montpellier. Moi, j'ai envie de descendre encore Fleury, Paris, le PFC, encore en course pour aller essayer, pourquoi pas, il reste 11 matchs, pourquoi pas d'aller essayer de gratter cette troisième place, parce que dans le contenu de ce qu'a proposé le PFC notamment, ils n'ont pas toujours été récompensés en termes de points, mais ça a été très intéressant. Et puis derrière, vous l'avez dit aussi, ce championnat pour le maintien qui va concerner les équipes qui sont derrière, ce n'est pas fini pour Le Havre, ce n'est pas fini pour ici. On voit que Le Havre, vous l'avez dit, a limogé Thierry Huvenat pour essayer de mettre un petit coup de fouet, pour essayer de changer quelque chose. Là non plus, tout n'est pas terminé. Donc, le bilan que j'ai envie de faire, c'est un bilan collectif, d'abord et avant tout, sur ce classement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du suspense à tous les niveaux dans notre D1. C'était souvent plié assez rapidement. On disait que Lyon allait être champion, Paris allait être deuxième. Et puis pour les autres, ils allaient faire tant bien que mal le ventre mou et essayer de lutter pour le maintien. Cette année, ce n'est pas le cas. Et franchement, à commenter, c'est très différent. C'est l'ambiance du commentaire est très différente parce que ça donne des matchs très intéressants, même s'il n'y a pas Lyon et s'il n'y a pas Paris Saint-Germain. Moi, j'ai eu la chance de commenter le Bordeaux-Montpellier, qui a été d'extrêmement bonne facture, que ce soit tactiquement ou techniquement. Les 45 premières minutes ont été dans l'engagement, dans ce que les filles ont pu donner, ont pu montrer. Une très bonne promotion de cette pratique. Et voilà, je trouve que le niveau, les équipes travaillent de mieux en mieux, les équipes se structurent de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de filles qui sont à disposition des clubs exclusivement. Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde encore, mais le professionnalisme s'inscrit dans de plus en plus de clubs. Et je trouve que le niveau se resserre, même si on a encore quelques scores un peu étranges. Je trouve que le fait qu'il y ait cette troisième place qualificative et cette lutte et ce resserrement des équipes, ça donne un championnat qui a vraiment un attrait différent des années précédentes.
Mmh, oui, c'est un championnat où on a vu déjà ouais, des scores un peu fleuves, d'autres plus serrés, plus compliqués. Donc c'est vrai que c'est une saison qui est plus particulière, en effet, à commenter. On va commencer par le leader, hein, du coup, on l'a dit, à la fois un événement et un non-événement, qui est un peu le sel du suspense, qui n'était pas tout le temps le cas en haut du classement. Le PSG, Marie, quelle signification a cette place de leader à mi-saison ?
Alors déjà, il y a deux choses qu'il faut retenir. Et la première d'entre elles, c'est que, qui peut paraître assez subsidiaire, mais finalement, malgré la victoire contre l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain n'est qu'à un point de son adversaire, à cause d'un match nul, on en a déjà parlé, au mois de septembre contre les Girondins de Bordeaux. Et ce qui fait que le championnat est extrêmement serré et que sur la deuxième partie de saison, si le Paris Saint-Germain perd contre l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain peut perdre sa place de leader en championnat. Et si le Paris Saint-Germain commet la moindre erreur, que ce soit un match nul ou contre une équipe autre que Lyon, le Paris Saint-Germain peut également perdre cette place. Donc rien n'est assuré, rien n'est figé. Et puis le deuxième enseignement, c'est, vous l'avez dit, sur ce match contre Lyon, le Paris Saint-Germain qui a réussi à vaincre un petit peu ses vieux démons. On avait dit lors du précédent podcast que l'un des enjeux était aussi là. Le Paris Saint-Germain a su faire preuve de caractère, a su presser l'Olympique Lyonnais et finalement l'a pris à son propre jeu lors de ce match et a tenu la dragée haute à l'Olympique Lyonnais. Pas seulement sur un quart d'heure, pas seulement sur une heure de jeu, mais sur toute une rencontre. Et le Paris Saint-Germain s'est véritablement donné des moyens d'être à la tête du championnat. Là où il va falloir faire attention en deuxième partie de saison, c'est que les compétitions vont s'enchaîner. Donc, il y a la Champions League qui a débuté au mois de décembre pour le Paris Saint-Germain. Il va y avoir des rencontres de la Coupe de France. Et ça peut être un peu compliqué pour les Parisiennes, notamment en termes de profondeur de banc. On l'a vu sur ce mois de décembre, ça a parfois été un peu compliqué. Avec Formiga qui était blessée et qui est revenue. Luana qui était retenue au Brésil parce qu'elle avait été cas contact Covid, mais qui finalement est revenue. Nadia Nadim qui avait été testée positive au Covid. Et ça avait créé un espèce de flou. On était obligé un peu de bricoler du côté parisien avec Olivier Chouafny qui tentait tant bien que mal de combler les brèches. Et c'était un peu périlleux. Donc il va falloir faire attention, avoir une gestion d'effectifs qui est cohérente, qui prend en compte les organismes des joueuses parce que les joueuses sont extrêmement sollicitées. Et ça peut être un peu difficile pour Paris Saint-Germain lorsqu'on connaît la profondeur de banc de son grand rival qui est l'Olympique Lyonnais.
Oui, c'est une année de Covid, hein, on le rappelle, qui met les organismes à rude épreuve. Hein. On le voit, c'est plus difficile pour s'entraîner. C'est vraiment une année très particulière. Comment tu vois cette D1, toi, Léo ?
Pour moi, je pense qu'il s'agit certainement d'une des plus belles saisons de D1 qu'on a pu voir. Aline Riera l'a souligné. On voit que c'est une première partie de saison intéressante avec des matchs de bonne facture, même quand il n'y a pas les grosses cylindrées que sont Lyon ou le Paris Saint-Germain, et qui confirment en fait tous les efforts faits par les clubs pour développer la pratique féminine et structurer et professionnaliser leur équipe féminine. On voit qu'en début de saison, beaucoup d'équipes avaient annoncé leurs ambitions et leur volonté de se rapprocher vraiment du top 5, avaient fait également un mercato dans ce sens-là, et toutes les équipes sont dans le... on va dire, dans les temps de passage. On voit qu'entre Guingamp, qui est 8e, et Montpellier, 4e, il y a seulement 6 points d'écart, et le niveau se resserre. Je pense que le championnat, il est vraiment fragmenté en 3 blocs. On a le podium avec le PSG, Lyon et Bordeaux. Alors certes, les Bordelaises sont peut-être un peu moins dominatrices que l'année dernière, à l'image notamment de leur défaite l'an passé, leur défaite pardon, face à Issy. Mais elle semble avoir de la marge sur Montpellier, qui est quatrième et qui, à mon avis, est à sa place et restera certainement quatrième. Et derrière, il y a cette vraie lutte qui est, pour moi, finalement, le cœur du championnat. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est cette lutte pour le top 5 entre Fleury et le Paris FC principalement, mais avec des équipes comme Dijon et Guingamp qui restent à l'affût à 5 points seulement et qui, en cas de belle série en deuxième partie de saison, pourraient vite grappiller des places. Et c'est ce qui va rendre cette deuxième partie de saison très intéressante. Sans compter cette lutte aussi en bas du classement pour le maintien qui devait se jouer entre Soyaux, Le Havre et Issy. Alors la lanterne, le rouge, Le Havre n'a pas su confirmer après sa victoire initiale face à Issy. Il se retrouve un peu décroché, on va dire, à 3 points de Soyaux, qui est la première équipe non relégable. Mais si on regarde le contenu des matchs, les Havraises semblent tout à fait capables de se maintenir. Elles sont peut-être même mieux armées que Issy, qui en fait, à l'exception du match face au Paris SG 5-0, les Havraises n'ont jamais perdu avec plus de 2 buts d'écart. Elles ont toujours livré une bataille acharnée et pourraient être peut-être davantage récompensées en deuxième partie de saison.
On va faire un point sur un peu les joueuses qui ont égayé cette première partie de saison. On a souvent parlé de Marie-Antoinette Katoto qui semble être au top de sa forme. Marie, on a Khadija Toudani également. Tandis que les Lyonnaises tirent un petit peu la langue. Certaines ont aussi été un peu prises dans le conflit dans la sélection nationale, hein, ce qui a peut-être pu jouer un petit peu sur les mentalités. Si quelqu'un veut se lancer, Aline Riera, éventuellement, comment vous les voyez, notamment nos internationales ?
On parle effectivement de cette lutte en tête des buteuses, hein, entre Marie-Antoinette Katoto et Khadija Shaw. Hein, Khadija Shaw qui confirme tout le bien qu'on pensait d'elle et qui, à mi-saison, a déjà marqué 14 buts et en tête. Elle est passeuse, elle a vraiment épuré son jeu, elle a vraiment progressé. Il y a de la maturité dans son jeu, donc ça, c'est vraiment intéressant. À chaque fois, sur chaque match, il y a des choses très intéressantes à dire sur cette joueuse-là. Sur Mac, Marie-Antoinette Katoto, eh bien, on l'avait dit que pendant les grands rendez-vous, elle était rarement présente. Là, sur le PSG Lyon, c'est elle qui marque et elle a fait un très bon match. Elle a été présente et elle a fait des choses très bien. Après, voilà, sur Lyon, ben, moi, j'ai envie de mettre un peu en avant la jeune Ellie Carpenter qui arrive, hein, 20 ans, qui remplace difficilement Lucie Bronze. Il faut savoir que c'est difficile. Elle est arrivée avec une pression terrible, cette jeune joueuse. Hein. Elle est arrivée, elle doit remplacer la meilleure joueuse de cette année, hein, la meilleure joueuse FIFA de l'année. Donc, voilà, c'est mettre un petit peu en avant. Et puis, la très bon début de saison aussi de Sakina Karchaoui du côté des Lyonnaises. Hein. Elle arrivait peut-être comme doublure d'une Selma Bacha ou d'une Amel Majri. Elle a tout de suite pris le poste et elle n'a jamais rien lâché. Elle a quasiment tout joué. Quasiment jamais blessée. Il y a eu beaucoup de casses chez les Lyonnaises, musculairement notamment. Il y a eu beaucoup de blessés. Il y a eu des joueuses qui sont blessées au tendon, Green Jambo qui s'est blessé au tendon d'Achille. Donc il y a eu aussi du côté des Lyonnaises beaucoup de casses. Ça a été difficile. Il a fallu jongler aussi. Vous parliez de profondeur de banc du côté du Paris Saint-Germain. Eh ben, on a vu en Champions League tout le bien de la formation parisienne parce qu'on a vu des jeunes joueuses qui font d'habitude partie de l'équipe des 19 ans. Émerger, montrer toute leur qualité aussi. Donc voilà, dans ces joueuses-là, et puis peut-être mettre en avant, vous l'avez dit, le bon recrutement, je ne sais plus qui est-ce qui en a parlé, mais le recrutement des clubs par exemple le PFC qui est allé chercher des prêts, d'Evelyne Vien par exemple, qui fait une première partie de saison très intéressante, qui s'est très vite adaptée. Et puis voilà, on a aussi la jeune Elisa de Almeida à Montpellier qui devait confirmer, qui a eu une première saison un peu difficile et qui la confirme et qui devient presque une ancienne ou une indispensable dans le groupe des Bleus, en tout cas indispensable à Montpellier, et puis qui prend sa place petit à petit chez les Bleus. Donc voilà, il y a quelques joueuses à mettre en avant. Alors, je ne vais pas toutes les citer parce que je ne les ai pas toutes en tête, mais j'ai peur d'en oublier. Mais voilà, il y a eu quand même de belles révélations, de belles confirmations, et puis des joueuses, voilà, vous l'avez dit, des joueuses qui se mettent au service. On parle un petit peu moins de Khadidia Toudiani, mais quand elle ne joue pas avec le PSG, ben, le PSG est en difficulté. Vous avez parlé de Luana, moi j'aime beaucoup cette joueuse et elle a été beaucoup décriée en arrivant parce qu'elle n'avait pas fait la préparation, mais là quand on voit en étant à 100%, c'est une joueuse exceptionnelle et qui a beaucoup apporté au PSG. Donc ouais, il y a de très belles choses dans le championnat qui devient de plus en plus attrayant et que le recrutement devient de qualité, notamment chez les étrangères. Il y a beaucoup de joueuses qui ont envie de venir jouer chez nous et ça franchement c'est une belle reconnaissance pour cette pratique.
Oui, oui. Ben d'ailleurs, vous avez raison là-dessus. Vous mentionniez tout à l'heure le mercato à Fleury. On voit que cette saison, elles arrivent pas mal à s'imposer. Moi, j'ai bien apprécié voir les matchs de Fleury parce que on les avait rencontrés d'ailleurs certains d'entre nous avant le début de la saison et on voyait leur motivation pour vraiment s'imposer dans les cinq premières. Là, ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour eux et ou pour elles. Et par exemple, les recrutements, et surtout en particulier, je pense à Le Garec, qui est revenu du championnat anglais, qui a aussi fait une belle performance cette première moitié de saison.
Oui, justement, je trouve que Fleury, c'est vraiment une des équipes qui a été... peut-être je n'attendais pas à ce niveau-là cette première partie de saison. Il y a eu beaucoup de mouvements. Je crois que c'est 11 départs, 11 arrivées à l'intersaison. Un recrutement très international pour le club francilien avec des joueuses expérimentées comme la Suédoise Julia Spetsmark ou encore Céleste Bourreille, milieu américaine. Mais aussi des jeunes espoirs comme la Polonaise Dominika Grabowska qui, très sincèrement, a des qualités de percussion très, très intéressantes. Et je pense qu'on peut aussi dresser un coup de chapeau à David Fanzel qui s'efforce en fait d'amener toujours ses équipes à produire du jeu. Et il a réussi à faire en sorte que la mayonnaise prenne bien à Fleury, malgré du coup, effectivement, les nombreux mouvements de l'intersaison. Et on voit que sur les quatre derniers matchs, Fleury compte 3 victoires, 1 nul, a développé un jeu séduisant avec beaucoup de mouvements devant, des combinaisons en 1-2 touches max. Le choix de donner les clés du jeu à Léa Le Garec s'est avéré payant. Inès a parlé d'elle, mais Léa Le Garec, je trouve qu'elle n'est pas vraiment sous le feu des projecteurs, mais elle a réalisé une saison de haute volée. Enfin, une première partie de saison d'autre volet, elle a inscrit 3 buts, elle est vraiment la maître à jouer de Fleury, elle donne le tempo, elle a cette intelligence aussi pour savoir quand accélérer ou calmer le jeu, et puis derrière, sa qualité technique fait le reste, hein, soit au niveau du jeu long, de la frappe. D'ailleurs, je pense que si elle se maintient ce niveau de jeu, elle pourrait retrouver les Bleus, enfin en tout cas, elle pourrait toquer à la porte de l'équipe de France.
D'ailleurs, en parlant de joueuses de l'équipe de France, tout à l'heure, on parlait de Lyon et des blessés, dont Ada Egerberg et Grigem Bock aussi, dont les convalescences se prolongent et qui font malheureusement un peu de mal à Lyon. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elles ont un petit peu eu du mal contre le PSG. Et une autre équipe qui a du mal, c'est Montpellier. Autant la saison dernière, on voyait qu'elles étaient plutôt bien dans l'enchaînement des saisons. Elles étaient toujours troisième dans le top du classement. Là, cette année, avec l'arrivée de Bordeaux en force, ça a un peu compliqué les choses pour elles. Je trouve que c'est un peu... c'est intéressant, ça met un petit peu plus de suspense. Après, c'est dommage pour elle, quoi.
Elle reste quatrième quand même, donc une excellente équipe. Et puis, effectivement, il y a De Almeida, Alain Riera, vous l'avez mentionné, qui est très sincèrement est assez impressionnante. Je trouve qu'elle a une maturité dans son jeu malgré son jeune âge qui en fait d'elle désormais vraiment une des cadres de cette équipe Montpellier-Rennes et probablement une des futures cadres de l'équipe de France.
Ben on l'a bien vu se réveiller, je pense, surtout dans les derniers matchs de l'équipe de France. Elle a vraiment pris une place plus importante que d'habitude. Ouais. Et c'était intéressant à voir, justement.
Elle a marqué ses premiers buts, Elisa de Almeida. De manière générale, d'ailleurs, la quasi-totalité du groupe France est composée de joueuses qui jouent chez nous. Et puis, on a vu l'émergence de jeunes, que ce soit Clara Matteo, Elisa de Almeida, Estelle Cascarino également, qui ont fait leur début. On voit des internationales qui performent aussi, tel F. Périsset à Bordeaux. Voilà, notre championnat continue d'être compétitif et ces internationales s'y portent bien, Aline Riera.
Oui, alors dans les joueuses que vous avez citées, ce sont des joueuses qui ont déjà une certaine expérience des compétitions de jeunes. Hein. On parle d'Elisa ouais. Almeida, des sœurs Cascarino, qui faisait partie du groupe qui a été vice-championne du monde en 2017, comme ça, de mémoire. Voilà, qui ont été championnes d'Europe en U19. Il y a, voilà, c'est pour ça qu'elles rentrent, entre guillemets, alors c'est pas facilement, mais c'est pour ça qu'elles ont déjà cette expérience, cette sérénité de rentrer dans un match international. C'est vrai qu'Elisa, elle est rentrée sur son premier match, elle n'a pas eu de timidité, on lui a demandé de jouer latéral droit, un coup dans l'axe, un coup latéral droite, et puis elle a fait le boulot avec beaucoup d'application, beaucoup de sérénité. Elle a été buteuse aussi. Voilà, on parle d'Estelle ou de Delphine Cascarino, elles étaient toutes les trois en sélection, et d'autres aussi, hein, mais ça montre aussi la qualité des formations de jeunes et de nos sélections, c'est-à-dire que dans les clubs, dans les pôles, que ce soit à l'INSEP ou dans les pôles régionaux, on travaille bien, on forme bien les jeunes joueuses. Et puis voilà, elles arrivent à rentrer quand on fait appel à elles dans les sélections ou en championnat de D1, elles arrivent à rentrer, à prendre la place et ce qu'on attend d'elles. Et c'est vrai qu'on voit l'émergence de jeunes joueuses, qu'elles soient internationales ou françaises, hein, parce qu'on parlait d'Elie Carpenter, il y a la jeune, le nom m'échappe à Montpellier, la Weerden, voilà. Ashley Weerden, jeune des Pays-Bas, qui est en train petit à petit de prendre une place intéressante, qui a beaucoup de qualité. On a la jeune Marie Foller, 17 ans, qui arrive, et là aussi, si on arrive à la conserver dans notre championnat. Donc voilà, y a, comme dirait Kylian, hein, l'âge n'attend pas le talent, ou le talent n'attend pas l'âge. Donc et c'est vrai que c'est une confirmation de ces jeunes joueuses. Elles prennent une place assez rapidement et de l'épaisseur dans leur club. Un peu forcée, vous avez raison pour Elisa, je pense, un peu plus, parce que du côté de Montpellier, il y a eu une année un peu de transition la saison passée où toutes les Scandinaves sont parties, on a récupéré, on a fait tout un changement. Elles ont perdu Sakina Karchaoui, elles ont perdu Marion Torrent sur suspension, sur blessure. Anouk Dekker s'est blessée. Ils ont perdu Lisa Schmidt aussi assez rapidement, qui avait fait beaucoup de bien dans l'effectif. Donc, à l'image des Lyonnaises, vous l'avez dit, ces blessures ont tendance à un peu tronquer les résultats. Ben, cette année, pour l'instant, ça favorise Bordeaux, ça favorise Paris. Voilà, les blessures font un petit peu, ça fait partie aussi de la pratique, malheureusement.
Et ça, entre ça et le Covid, ça favorise aussi le suspense. Comment est-ce qu'on on voit un peu la suite, Inès? Alors, on a parlé un petit peu du haut du classement avec le PSG, on y reviendra juste dans un instant avec Marie, mais Inès, pour la suite, pour le milieu et le bas de tableau, le milieu peut-être avec le Paris FC qui semblait montrer de bonnes dispositions, puis qui finalement tire un peu la langue.
Bah oui, le PFC cette année, on a vu aussi justement qu'il était un peu affaibli. Déjà l'année dernière, ça avait commencé, je pense qu'on peut le dire, à être en baisse. Après, moi, j'ai pas vraiment d'explication à ce sujet, même s'il y a, après, voilà, le mercato, il y a aussi des joueuses qui sont parties, comme pour Montpellier. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi derrière une question de staff ou de soutien du club, de conditions d'entraînement? Moi, je sais que j'avais parlé avec des supporters qui disaient que aussi, il n'y a pas cet esprit-là autour des joueuses que peuvent retrouver des équipes comme Montpellier, Lyon et le Paris Saint-Germain. Même si ça peut paraître anecdotique, je pense que ça peut jouer un peu. À mon avis, il y a plein d'éléments comme ça qui peuvent jouer.
Après, Aline Riera l'a mentionné, le Paris FC a quand même produit des matchs intéressants, n'a pas toujours été récompensé non plus. Et c'est ce qui va être intéressant sur cette deuxième partie de saison, c'est de voir un peu, je pense que ça va être un peu la prime à la constance. L'équipe qui aura cette faculté à enchaîner les bons résultats, à déclencher une série, pourra grappiller des places rapidement au classement.
Ouais, c'est sûr.
On peut penser mais par exemple à Dijon qui a fait un mercato intéressant, qui était axé sur l'attaque, qui était leur point faible l'année dernière avec des recrues comme Milan Tarieux, qui était un peu un pari, mais Désiré Paranoudi, une valeur sûre l'AD1, ou Shania Gordon, l'américaine, qui avait montré de belles choses à Metz. Et on voit que ça ne se traduit pas encore au niveau des résultats. En tout cas, Dijon vise ouvertement le top 5, mais on peut dire que Dijon va assurer son maintien sans problème. Mais pour aller dans le top 5, Dijon fait encore preuve de trop d'inconstance face à ses concurrents directs, notamment dans le top 5 avec une défaite face à Fleury ou une défaite face au Paris FC, mais a été capable de battre Montpellier. Donc on voit que dans ce, on va dire, cette lutte aussi pour le top 5, l'équipe qui sera capable d'enchaîner les bons résultats devrait pouvoir grappiller des places. Un point aussi peut-être intéressant, je pense à mentionner, qui est la lutte pour le maintien. On parlait tout à l'heure des Havrais qui, je pense, peut-être sont un peu mieux armés que les ICN, mais à noter aussi que du côté d'ici, bon, c'est une équipe qui voilà, est peut-être un peu moins complète. Ils ont eu un mercato qui n'était peut-être pas tout à fait à la hauteur des espérances d'ici, où il manque peut-être sûrement de joueuses au milieu de terrain. Mais on voit qu'elles ont quand même quelques fulgurances en attaque avec des joueuses comme Laurie Teinturier ou Batche Baloui. Et si elles arrivent un peu à colmater les brèches en défense, elles devraient pouvoir peut-être aussi espérer continuer à lutter jusqu'au bout avec Le Havre et Soyo. Mais d'ailleurs, leur chance, c'est que même si elles ont, on retient évidemment le score fleuve du PSG, mais elles restent quand même à un seul point de Soyo. Et Soyo, c'est peut-être le point d'inquiétude. On se demande si cette saison ne sera pas un peu la chronique d'un échec annoncé. On voit que les résultats sont malheureusement dans la continuité de la saison 2019-2020 qui a été difficile. Soyo est pourtant une place forte du football féminin français, mais la saison dernière a été difficile, plombée un peu par les problèmes financiers, la sanction de la DNCG. Là, on a le départ de Sébastien Joseph. À voir, mais en tout cas, même en bas de tableau, la lutte sera intéressante. Et c'est vraiment ce qui, je pense, rend un peu palpitante cette deuxième partie de saison, c'est qu'on a du suspense à tous les étages.
Ouais, c'est ça, exactement. Ce que j'allais dire, on a du suspense à tous les étages. Après, pour le haut, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est savoir si enfin le PSG va détrôner un peu Lyon hein, pour une fois cette saison. Marie, comment tu le vois ?
On voit que les joueuses se connaissent. On parlait tout à l'heure de Louana, hein, et à juste titre, c'est une joueuse qui fait une saison remarquable et qui, au milieu de terrain, s'entend très bien avec Grace Guillerot et Sarah Dabrid. Sarah Dabrid, qui est revenue d'une blessure assez grave et qui montre aujourd'hui toute l'étendue de son talent, que ce soit dans le jeu ou sur les coups de pied arrêtés. Elle est très souvent dangereuse et il y a une espèce d'alchimie entre les trois qui fait que le Paris Saint-Germain pousse bien son jeu. Et depuis le match contre Bordeaux, il y a cette vraie volonté de tuer les matchs, cette volonté vraiment de ne plus se laisser prendre au piège et vraiment de terminer le travail assez tôt. Donc je pense que ça peut être la bonne saison pour le Paris Saint-Germain, mais il va vraiment falloir faire très attention à être constant et ne pas perdre des points bêtement, notamment pour des problèmes d'effectifs.
Est-ce que c'est la bonne, Aline Riera, pour le PSG ?
Bah, j'ai envie de dire qu'elles n'ont jamais été aussi bien placées pour réussir ce qu'elles cherchent depuis 14 ans. Il va y avoir deux possibilités et il va falloir qu'elles soient costauds mentalement. Vous l'avez dit, elles n'ont jamais été dans cette position d'être chassées. Elles ont toujours été derrière. Dauphin de Lyon a essayé d'aller les battre enfin. Elles ont fait ce qu'on attendait d'elles, c'est-à-dire de les battre à domicile. Maintenant, il va falloir être capable d'aller chercher un résultat là-bas, ce qu'elles n'ont quasiment jamais fait. Elles les ont embêtées, mais ça a toujours penché du côté des Lyonnaises. Et il va falloir, vous l'avez dit aussi, ne pas perdre de points en route. Mais je trouve justement qu'elles ont maintenant la maturité pour plier les matchs rapidement, mettre tout le sérieux et toute l'intensité dans les débuts de match. Elles marquent de plus en plus tôt dans les matchs contre la plupart des équipes. Elles mettent une qualité, une intensité dans le jeu qu'elles n'avaient pas l'habitude ou elles n'avaient peut-être pas les joueuses pour. Elles se connaissaient peut-être pas assez. Là, c'est un groupe qui a quand même assez peu évolué, assez peu bougé. J'ai envie de dire qu'il y avait presque eu deux recrues entre Louana Desbrides, c'est ce que vous avez dit, parce qu'elle était blessée une grande partie de la saison et Louana, elle n'était pas prête quand elle est arrivée. Donc c'est des joueuses qu'on découvre à leur meilleur niveau et qui font un bien fou à ce milieu de terrain. Alors oui, tous les voyants sont au vert pour Paris, elles sont en tête, donc elles sont en position, elles ont leur destin en main, mais il va falloir être costaud mentalement parce que c'est quelque chose qu'elles ne connaissent pas. C'est quelque chose qu'elles n'ont pas l'habitude, c'est une pression particulière, mais je pense qu'avec l'expérience de la plupart des joueuses, quand on voit le niveau affiché par Irène Paredes sur cette saison, le niveau affiché par Christiane Endler, la sérénité, tout ce que on encadre bien les jeunes joueuses, il y a pas trop, on a récupéré les blessés parce que Grace Guillerot était blessée en début de saison, il n'y a pas trop d'énormes pépins physiques, même si vous l'avez dit, elles sont encore engagées dans toutes les compétitions. mais on a vu qu'Olivier Chouafny faisait tourner en Champions League en faisant rentrer des jeunes. La Coupe de France, pour les premiers tours, je pense qu'il pourra faire tourner, faire jouer des joueuses qui ont peu de temps de jeu, à l'image d'une Signe Brune qui a du mal à prendre du temps de jeu, à l'image aussi d'une Aitema qui, elle aussi, a du mal à vraiment s'ancrer dans ce collectif. Il y aura du turnover par la force des choses. Pour l'instant, il l'a très bien fait. Je trouve qu'il a très bien géré Olivier Chouafny. Et puis, il a concerné tout le monde. Alors moi, j'ai envie de vous dire oui. Ce serait bien cette saison. En tout cas, ce serait peut-être la bonne saison pour Paris. Elles n'ont jamais été aussi bien placées. Et elles ont leur destin entre les mains. Donc, c'est peut-être pour elles la bonne saison.
Et puis, il faut peut-être pas. Voilà, ça se sera compliqué jusqu'au bout. Il y a du suspense. Et puis, il ne faut pas enterrer l'Olympique Lyonnais malgré tout, hein, qui reste l'un des meilleurs effectif d'Europe, si ce n'est le meilleur, avec ses internationales, avec des joueuses qui vont certainement peut-être un petit peu aussi tirer la langue, mais qui sont toujours là et qui ne sont qu'un point derrière, comme vous le rappeliez, Aline et Marie, le championnat est loin d'être plié. Il reste encore beaucoup de matchs et avec en plus les blessures et le Covid, c'est d'autant plus difficile à pronostiquer. Voilà pour la D1, on va passer de l'autre côté de la Manche et puis aussi faire un petit tour en Europe. Entre les deux. On passe donc de l'autre côté de la Manche où ça a aussi été très actif. C'est un peu le championnat qui monte, hein, la FA Women's Super League du côté de l'Angleterre. Aline Riera, comment est-ce que vous voyez son émergence, puisqu'elle a rappelé notamment, on a vu que Lucy Bronze était revenue, c'était des joueuses aussi sont attirées, que ce soit donc If et Press à United, Alex Morgan à Tottenham, Valérie Gauvin aussi qui est allée à Everton. Il y a toujours Kenza Daly à West Ham. Ça fait beaucoup de... C'est un peu le championnat qui monte.
Alors oui, c'est le championnat qui monte. Et c'est surtout le championnat qui est presque le plus jeune et qui met le plus de moyens. Il n'y a pas de secret aujourd'hui. Ce championnat anglais féminin, il a progressé de façon assez vertigineuse. Tous les clubs sont appuyés sur une structure professionnelle homme, ce qui n'est pas le cas encore dans notre championnat. Hein. Je vous rappelle que la D1, les deux clubs qu'on a cités, qui étaient dans la charrette pour descendre, il y a deux clubs exclusivement féminins que sont Soyo et ici. Ce n'est pas le cas au niveau de ce championnat anglais. Donc, il y a aussi un attrait parce qu'ils ont tout de suite mis les moyens, ils ont tout de suite mis à égalité de chance les hommes et les femmes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les clips de promotion de Manchester City. Il y a les femmes, les hommes sont mélangés au même niveau. On montre les structures, on montre les matchs. Et c'est comme ça dans tous les clubs. Petit à petit, les clubs se sont rendus compte qu'il fallait absolument développer. Vous avez Manchester, vous l'avez dit, Manchester United qui a fait un très bon recrutement. Tottenham qui est un peu en bas de classement, mais qui fait quand même venir Alex Morgan, qui va repartir, mais qui est quand même venu. C'est un sacré coup de com' quand même, hein. Après avoir un enfant, il faut revenir, il faut être capable. C'est une belle communication aussi. Donc, c'est un championnat qui est très attrayant et c'est vrai que les Anglais et les Anglaises sont assez conservateurs et conservatrices. Donc, Lucy Bronze, voilà, elle est venue gagner des titres, mais on sent bien qu'à un moment donné, elle avait besoin de revenir au pays et que ça lui manquait et que les Anglaises vont, parce que le niveau monte dans ce championnat, vont rapidement revenir dans leur championnat et dans leur club respectif.
Marie, tu as pas mal suivi ce championnat, toi.
C'est vraiment un championnat qui, sur ces deux dernières années, s'est extrêmement développé, avec notamment un contrat de 10 millions de livres sterling avec Barclays pour le naming de la Ligue, ce qui permet aussi aux équipes d'avoir une certaine manne financière pour pouvoir développer leurs équipes. Alors, c'est un championnat qui a été très surprenant parce qu'on retrouve à sa tête Manchester United avec 23 points et 0 défaites. Rappelons quand même qu'il y a deux saisons, Manchester United était encore en Championship, donc c'est vraiment une prouesse pour le club de Manchester, qui se retrouve devant Arsenal, qui a deux défaites, une contre Chelsea et une contre United, devant Chelsea et encore derrière contre Manchester City. Alors, pour Chelsea, c'est pas vraiment une problématique, puisque Chelsea a 6 points de retard, mais 2 matchs en moins, parce qu'avec le Covid, il y a eu un certain nombre de remaniements qui ont été faits. Donc, il y a eu des matchs de Premier League qui ont été reportés. Donc, Chelsea pourrait, en cas de victoire sur ces deux matchs en retard, se retrouver à égalité de points avec Manchester United. La véritable déception, c'est Arsenal. Arsenal qui déjà n'est même pas qualifié pour l'édition en cours de la Women's Champions League, mais qui a également perdu contre Manchester City et United et qui pourrait se voir relégué à la 3e ou 4e place en cas de défaite contre City et contre Arsenal. Et une autre déception également, c'est le club de Tottenham. On s'attendait avec le recrutement d'Alex Morgan, alors même si elle revenait de grossesse et même si c'était un peu plus un coup de com' qu'un coup sportif vu la situation, On s'attendait quand même à de meilleures performances pour le club de Londres. Et il se place encore aujourd'hui à la 8e place. Il y a eu encore cette histoire de coach, de duo de coach historique qui ont été remplacés en cours de championnat. Voilà, il y a quelques signes annonciateurs qui sont pas très favorables du côté de Tottenham. Et puis un point en finale sur la Cup, puisque Manchester United est éliminé de cette Cup, de même que pour Arsenal. Et Manchester United, il va avoir tout le loisir de se concentrer sur le championnat, puisqu'il ne dispute pas encore la Champions League, pour laquelle il est bien parti pour se qualifier.
Et justement, dans une saison, on va dire, un peu post-Covid, alors c'est vrai qu'Arsenal a été un peu décevant, mais le fait de ne pas jouer la Ligue des Champions, d'avoir été éliminé de la Cup, font qu'en deuxième partie de saison, avant de se concentrer uniquement sur le championnat, c'est quand même une équipe talentueuse, je pense qu'il reste encore en course pour une nouvelle qualification à la Ligue des Champions, enfin une qualification, une requalification, puisqu'elle n'était pas cette année. Et je pense dans une saison, on va dire, Covid, où il y a quand même cette incertitude sur l'effet que peut avoir sur du long terme le premier confinement, l'arrêt des compétitions sur les organismes. Ça peut être peut-être un avantage pour ces équipes, Arsenal, Tottenham, le fait d'être éliminé et de pouvoir se concentrer uniquement sur le championnat.
Sur Tottenham, je pense que j'aurais tendance à nuancer un peu l'idée de déception, parce que, enfin, il ne faut pas oublier que c'est que seulement leur deuxième saison en Super League. Il ne faut pas oublier effectivement qu'il y a eu ce changement de coach en cours de saison. C'était des coachs historiques qui étaient là depuis presque plus de 10 ans dans le groupe, et qui étaient un peu des coachs, voilà, historiques qui suivaient un peu et qui encadraient beaucoup. Là maintenant, ils rentrent un peu dans une ère plus professionnelle, donc j'aurais plutôt tendance à voir cette saison comme une saison de transition pour essayer de viser un petit peu plus haut et pour progresser un peu les années suivantes. Alors après, effectivement, oui, on a beaucoup parlé du coup Alex Morgan. Pour moi, c'est surtout un coup marketing et de communication très réussi par ailleurs. Voilà, on se souviendra de la photo avec José Mourinho pour l'histoire du football. Sportivement, elle a joué 4 matchs, 2 buts, à chaque fois sur penalty. Voilà, c'est une expérience un peu à nuancer. Mais j'aurais tendance à dire que je préfère un parcours à la Tottenham qui prend son temps et qui veut se structurer pour atteindre le top, plutôt qu'un parcours à la Liverpool où là on se demande vraiment s'il y a une vraie politique sportive de la part des dirigeants pour leur équipe féminine. Liverpool l'année dernière ils terminent dernière et elles sont actuellement en championship, et elles sont toujours dans la course pour la promotion, mais il n'y a pas vraiment de, on a du mal à dégager un projet de savoir ce que veulent les dirigeants pour cette section féminine de Liverpool. Ils ont ouvert un magnifique le nouveau centre d'entraînement qui remplace l'historique centre de Melwood. Donc dans leur communication, c'est un centre qui est censé accueillir toutes les équipes à un seul endroit, mais toutes les équipes masculines malheureusement. Et pour l'instant, l'avenir de la section féminine, on n'est pas trop certain ce que ça donnera du côté de Liverpool. Donc.
Non, mais après, je pense qu'il y a un point que tu as mentionné, Antoine. Important, c'est effectivement il y a la question des projets, et on voit qu'en Angleterre, les équipes qui en ce moment sont en train de réussir sont les équipes qui ont un véritable projet, qui mettent les moyens. Il y a des moyens qui sont mis sur l'ensemble du championnat. Alors certes, il y a aussi ces coups de com', notamment Alex Morgan, mais c'est le reflet finalement d'une dynamique générale quand même de développement du football féminin en Angleterre. Angleterre, pays du football, c'était un peu une anomalie qu'il n'y avait pas par le passé un championnat vraiment compétitif. Le championnat l'est de plus en plus, les clubs mettent de plus en plus de moyens. Et on a eu l'occasion avec Marie ou Inès de discuter avec des dirigeants de clubs andéens qui nous disent que de plus en plus, lorsqu'ils en viennent à recruter leurs joueuses, ils font face à la concurrence anglaise et que ça devient de plus en plus difficile de rivaliser parce que justement les clubs anglais ont les moyens et font ce qu'il faut pour attirer les joueuses, des joueuses de grand talent. Et l'arrivée de joueuses comme Alex Morgan, même s'il y a une partie effectivement communication, c'est aussi le reflet de tous ces moyens qui sont mis. Et je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour le football féminin en général, parce que si les clubs français font face à une concurrence nouvelle des clubs anglais, ça va aussi les tirer vers le haut. Ça tirera sans doute les clubs espagnols vers le haut, les clubs italiens. Et in fine, on aura aussi des championnats européens qui seront de plus en plus intéressants et une Ligue des Champions qui le sera elle aussi.
Oui, non, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Je pense que Liverpool, c'est un peu effectivement cette exception qui confirme un peu la règle.
À moins que vous ayez d'autres choses à ajouter, on peut conclure là-dessus. C'est un championnat donc qui continue à attirer des stars et des têtes d'affiche. De là à concurrencer éventuellement au niveau international, on verra on fera un point sur la Champions League tout à l'heure, mais à concurrencer les clubs français et les clubs allemands également sur les victoires au niveau européen. Comment vous le voyez, Aline Riera?
Bah, je pense qu'il manque encore un petit peu d'expérience pour ces clubs anglais. On le voit sur les campagnes de Coupe d'Europe. Elles ont quand même du mal à avoir des résultats réguliers, alors qu'on retrouve toujours dans le dernier carré une équipe française, une équipe allemande depuis une dizaine d'années, je pense. Donc voilà, il y a eu Arsenal qui vit sur ses acquis et qui est en difficulté, qui est en restructuration et qu'un métro de retard par rapport à, vous l'avez dit, tous les clubs que vous avez cités. Mais pour l'instant, l'attractivité de l'AD1 a réussi encore à faire venir de très bonnes joueuses chez nous et permet par exemple aux Lyonnaises ou aux Parisiennes de garder leurs effectifs, notamment chez les étrangères. Mais c'est vrai qu'on sent petit à petit, même nos Françaises, vous l'avez dit, Valérie Gauvin, on a parlé de Léa Le Garec, on peut parler de Kenza Dali, on peut parler de... Et encore une autre.
Sissoko.
Voilà, qui sont partis essayer, voir une autre culture, voir pour essayer de gagner des titres. Mais petit à petit, pour l'instant, je pense qu'on a encore un petit peu d'avance et les clubs allemands ont encore un petit peu d'avance dans l'expérience de ces grands rendez-vous, de ces grandes compétitions. Parce que le championnat est encore, vous l'avez dit, un peu à plusieurs vitesses et il n'y a pas des gros matchs non plus tous les week-ends. Nous, notre D1 commence à se resserrer. En Allemagne, c'est un championnat qui est assez resserré aussi. Mais les Anglaises, il y a des matchs qui sont extrêmement faciles et quand elles arrivent à se confronter en Coupe d'Europe, elles ont le même problème qu'ont eu les Parisiennes en tout début de leur qualification en Coupe d'Europe. Elles n'étaient pas au niveau parce qu'elles n'avaient pas l'habitude de se faire mal. Elles n'avaient pas l'habitude d'avoir des matchs très accrochés. Elles n'avaient pas l'expérience. Voilà. Et pour l'instant, je pense que ça manque encore un peu au club anglais.
Et puis, il y a aussi l'importance, vous en avez parlé précédemment, et qui fait peut-être que la France a encore un championnat très performant sur la formation. En fait, le fait que le championnat se resserre aujourd'hui en France, c'est aussi le résultat d'années de travail et de formation pour avoir aussi toutes ces jeunes de qualité dans le championnat de France.
Ah oui, parce que quand vous voyez le palmarès des Coupes du Monde et des Championnats d'Europe U17, U19, je pense qu'il n'y a pas une année où il n'y a pas les Françaises en finale, voire avec le titre, ce qui n'est pas du tout le cas des Anglaises pour l'instant. Alors, ils le font très bien avec les jeunes garçons, les jeunes Anglais, ils ont une génération de fous chez les Anglais qui arrivent et plusieurs générations, ce qui n'est pas du tout le cas chez les féminines pour l'instant. Donc, on a encore un peu d'avance sur la formation parce que là, les Anglais, ils ont dit on va créer un championnat professionnel, on va mettre de l'argent, mais effectivement, la formation derrière n'est pas forcément assurée. Et le renouvellement, si ça ne fonctionne pas, si les titres ne sont pas là, ça va s'essouffler petit à petit. On le voit avec Arsenal qui a gagné une fois la Coupe d'Europe et puis derrière, qui a du mal à ressourcer, à retrouver des joueuses. Alors, c'est vrai qu'avec de l'argent, on fait venir les Américaines, c'est vrai que. Mais ça ne dure pas parce qu'elles repartent faire leur championnat, parce qu'elles savent que pendant la Coupe du Monde, elles doivent absolument jouer aux États-Unis pour être sélectionnables. Donc ça, vous allez toutes les perdre à chaque fois en année Coupe du Monde. Il n'y aura pas une seule Américaine en championnat étranger. Donc il y a ça aussi, il faut tenir compte de tout ça. Et pour l'instant, on a un petit peu d'avance sur cette gestion des joueuses, du recrutement. On a encore un peu d'avance sur les Anglais.
Marie, tu voulais ajouter quelque chose ?
On pourrait très bien parler de ces équipes au singulier, parce que si on y regarde de plus près, c'est surtout l'Olympique Lyonnais et Wolfsburg qu'on retient. Derrière, ça ne suit pas forcément. Mais je pense qu'à terme, on pourra retrouver de manière assez régulière des équipes anglaises dans le dernier carré de la Ligue des Champions.
Bon. Ok, bien, merci pour vos interventions. On va revenir sur le continent, n'est-ce pas ? On va s'intéresser à l'Allemagne et à l'Italie.
Entre les deux.
La Serie A, d'abord, avant de parler de l'Allemagne, qu'on a déjà un peu évoqué, on va faire un petit tour sur l'Italie, Inès, avec notamment la Juventus qui mène au classement.
Oui, effectivement, donc la Juventus, elle est première au classement avec 10 victoires pour 10 matchs, 6 buts encaissés. On dirait qu'elle est bien partie pour un quatrième titre consécutif en championnat dans cette Serie A. Juste derrière, elle est suivie par l'AC Milan, avec une seule défaite en cette première moitié de saison. Elle est à 3 points de la Juventus. C'est aussi la meilleure défense du championnat, avec une moyenne de 0,4 buts par match. Derrière, on a, donc en troisième position, on a le Sassuolo, qui est une surprise, qu'on n'attendait pas aussi haut au classement. Et je pense qu'on peut, mettre en avant sa joueuse, Hailey Bujeja, je ne sais pas comment ça se prononce, qui n'a que 16 ans, qui est cinquième meilleure buteuse du championnat et qui a mis 6 buts en 8 rencontres, ce qui est quand même assez remarquable. Et puis derrière, ça devient un peu plus serré. Il y a Empoli en quatrième position. Et puis la Fiorentina et l'Inter de Milan qui sont tous les deux à 14 points. Donc même si la Fiorentina a gagné contre Sassuolo, donc troisième au match aller, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça peut être assez intéressant à ce niveau-là du tableau pour la deuxième moitié de saison. Donc rien n'est joué. Et rien ne dit non plus que Empoli ne pourra pas se reprendre entre guillemets en main ou en tout cas rejoindre l'AC Milan et les autres équipes plus haut dans le classement sur le podium.
Côté Allemagne, c'est là aussi un Cador qui mène la danse, le Bayern Munich évidemment.
Et oui, le Bayern Munich qui est la superstar du championnat cette année. 11 matchs, 11 victoires. 32 buts inscrits pour un seul encaissé, sur pénalty en plus. C'est l'équipe qui a détrôné le Wolfsburg, qui arrive deuxième en cette première moitié de saison. C'est la première fois en 4 ans que les Louves ne sont pas championnes d'automne. Elles ont une défaite donc, contre le Bayern en novembre et elles n'avaient pas perdu depuis février 2019. Donc c'est vrai que c'est un gros coup que le Bayern de Munich est en train de faire cette saison. Wolfsburg a 5 points de retard sur elle, malgré tout. Derrière, au niveau de la troisième place, on a le TSG Hoffenheim qui a pas mal derrière au niveau des points. C'est 6 points d'écart. Et puis, la Turbine Potsdam qui est juste derrière. Hoffenheim, c'est 7 victoires en 11 matchs. Potsdam sont 4e avec un match de retard. Donc, c'est pour ça que là, on a encore du suspense pour cette lutte pour la troisième place. Et par ailleurs, je pense qu'il faut aussi remarquer Francfort, qui était très attendu et pourtant est 7e au classement. Donc, à voir ce qui se passe à partir de janvier dans ce championnat allemand.
Le Bayern Munich de Viviane Asseyi, hein, notamment, qui s'est blessé, qui en a pour quelques semaines un petit peu sur le flanc. Et puis la Juventus qui a quand même donné du fil à retordre à l'Olympique Lyonnais en Champions League, avec notamment au match aller. Au match retour, ça a été un peu plus simple pour les Lyonnaises, entre guillemets. Elles se sont rendues le match plus simple. Pourtant, c'est une équipe qui est jeune, la Juventus, qui a 3 ans d'existence hein, seulement. Mais là aussi, vous en parliez, Aline. Aline Riera, un club qui se développe, un gros club en plus, la Juventus, avec la structure que ça implique, et qui a donné un peu du fil à retordre à l'Olympique Lyonnais, ce qui est quand même pas rien.
Ça a été un match accroché, ils avaient vraiment, vraiment bien préparé leur match, je pense, du côté de la Juventus, en étudiant à la vidéo, en appuyant un petit peu sur le peu de points faibles que pouvaient avoir les Lyonnaises. Et puis c'est vrai que les Lyonnaises étaient dans un moment pas difficile, avec quelques blessés, quelque chose qui manquait, de la fatigue. Voilà, ils ont mis une pression importante et les Lyonnaises n'ont pas l'habitude d'être menées, mais elles ont très bien réagi. C'est vrai que sur un match à l'extérieur, sur le match aller, elles ont été en difficulté. Mais à l'image des grandes championnes et de l'expérience qu'elles ont, elles ont su revenir, elles ont plié rapidement le match retour en imposant et en mettant toute l'expérience qu'elles ont avec tous leurs titres européens. Donc, en toute logique, elles ont battu ces joueuses de la Juve, mais c'est vrai que ça peut donner quelques idées aux futurs adversaires des Lyonnaises, parce que la Juve a plutôt très bien joué sur le match aller, en tout cas.
On va partir maintenant sur la péninsule ibérique, là aussi sur un championnat qui est un peu en plein essor, donc à commencer évidemment par l'Espagne, hein, une saison qui est marquée par l'arrivée du Real Madrid, qui a racheté les droits du CD Tacón. Un Real Madrid qui est quand même encore en construction, hein, Antoine, on l'a vu dans les gros matchs face au Barça et l'Atlético.
En construction, oui, effectivement. Après, ça reste un Real Madrid qui fait une très, très bonne première partie de saison. Le match contre l'Atlético Madrid, il est très, très, très serré. Les Colchoneras ne le gagnent que 1-0 avec un but à la 5e minute. Après, voilà, pareil, il y a eu quelques petites contre-performances. Un nul contre Valence, une défaite contre Tenerife. Sinon, dans l'ensemble, les Madrilènes sont deuxièmes avec 28 points en 13 matchs. Donc c'est relativement un très bon début de saison. L'excellent début de saison, si on peut dire, c'est pour les leaders barcelonaises qui carburent comme jamais. Alors il faut savoir qu'elles sont premières avec 30 points, mais avec 3 matchs en retard. La plus petite victoire depuis le début de la saison, c'est un 3-0, mais c'était contre l'Atlético Madrid. Le FC Barcelone cette saison, c'est 57 buts en 10 matchs. C'est tout simplement colossal. Je ne suis pas sûr qu'une autre équipe en Europe puisse faire ça. Le Bayern, par exemple, en titre de comparaison, c'est 40 buts en 12 matchs. Après, voilà, effectivement, il y a une saison un peu plus nuancée du côté de l'Atlético Madrid. C'est globalement une grosse irrégularité, une forte irrégularité. C'est des victoires, des belles victoires au mental qui sont arrachées donc, contre le Real, par exemple, ou contre la Real Sociedad mardi dernier, où elles arrachent finalement 2 buts grâce à Castellanos. Dans la toute fin du match, mais après globalement c'est une forte irrégularité, c'est deux points perdus contre l'Athletic Bilbao début décembre, c'est une première mi-temps qui est très compliquée contre le Servette de Genève, alors qu'a priori on est quand même sur un écart de niveau assez important. On se rappelle qu'au match aller il y avait 2-1 pour le Servette à la mi-temps. L'Atlético s'était rattrapé en deuxième mi-temps et sur le match retour. Mais voilà, globalement, cet Athletic Bilbao, l'Athletic Bilbao aussi, mais l'Atlético Madrid surtout, est assez irrégulier. Alors certes, rien n'est perdu pour l'instant, elle reste troisième. Pour moi, si les choses continuent comme ça, le titre est promis de manière quasiment absolue à ce FC Barcelone. Et la lutte pour l'Europe sera assez intéressante entre Real Madrid et Atlético. Il y a des bonnes surprises, la bonne surprise Tenerife, par exemple, quatrième avec 27 points, et la bonne surprise de Levante. Toletti, la buteuse française, a mis un triplé ce mardi. Et elles ont également dans leur rang la meilleure buteuse du championnat, la Pichichi, Esther González, avec 11 buts. Et c'est quand même une performance qu'il faut souligner quand on voit l'armada, par exemple, des joueuses barcelonaises ou même madrilènes.
Aline Riera, voir le Real Madrid qui encore en rodage, mais qui, comme Antoine le soulignait, fait un très bon début de saison et qui franchisse le pas, du coup, une structure comme le Real, de la même manière que la Juventus en Italie, c'est quelque chose qui ne peut qu'être bénéfique pour le football féminin mondial et un petit peu une nouvelle émulation en Europe.
Oui, évidemment, rien que le nom hein, parle à tout le monde et dans le monde entier. Donc, quand on parle du Real Madrid ou même quand on parle de l'Atlético derrière ou de la Juventus, c'est important que ces clubs-là… alors, ils ont dû voir que Barcelone avait joué une finale de Champions League contre Lyon et qu'il y avait eu beaucoup de communication. Ça avait fait pas mal exploser, pas mal fait connaître le championnat espagnol et son professionnel. Ça s'est développé de manière professionnelle. Donc… Je pense qu'ils ont eu envie aussi. Hein. Le Real, ils ont récupéré une équipe qui existait déjà. Ils se sont adossés sur une structure masculine professionnelle. Donc voilà, c'est ce qui se fait à l'image de ce qu'on peut faire la majorité des clubs de D1. Il faut aujourd'hui, pour réussir à vivre et pour être pérenne, souvent s'appuyer sur une structure professionnelle qui existe déjà. Et ça progresse forcément, parce qu'il y a des étrangères qui partent aussi là-bas. On voit que l'équipe nationale espagnole a fait une bonne Coupe du Monde, il y a eu quelques révélations. Il y a des jeunes joueuses aussi qui ont été vice-championnes du monde aussi, ou championnes du monde en pareil, U17 ou U19, je ne sais plus exactement, ou U20. Donc voilà, cette génération est en train d'éclore maintenant, est en train de prendre de l'ampleur. Et c'est bien qu'il y ait encore un championnat qui se développe. On a parlé des Anglais, on a parlé des Allemands, on parle des Espagnols et des Italiens. Et ça donne une Champions League qui va, elle aussi, être de bien meilleure qualité avec des confrontations de grande qualité. Le Real Madrid s'inscrit, comme Barcelone ou comme l'Atlético, comme un futur grand club de ce championnat et qu'on va retrouver en Champions League, forcément.
Oui, pardon, excuse-moi.
Oui, non, mais je pense que le Real est un bon exemple sur ce qu'il faut faire. Alors, Alain Ria, vous avez mentionné l'importance, effectivement, d'avoir des moyens, d'adosser le club soit à une structure professionnelle, enfin, d'avoir vraiment une structure professionnelle. Je trouve que le Real a eu la bonne stratégie, c'est-à-dire qu'ils auraient pu très bien faire un peu une équipe de galactique, utiliser les moyens pour construire une équipe tout de suite capable d'aller jouer le titre. Et au contraire, non, ils ont pris le contre-pied dès le départ en rachetant le CD Tacon, en disant qu'ils voulaient se baser sur la formation, prendre le temps de construire une équipe compétitive, mais qui puisse l'être sur du long terme, avec justement une formation derrière et la capacité à faire monter des jeunes joueuses. Et on voit que la plupart des équipes espagnoles sont aussi sur ce schéma-là, avec un centre de formation et des équipes jeunes de plus en plus performantes, avec des jeunes qui montent chaque année dans les différentes équipes A. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour la Ligue des Champions également à l'avenir.
Alors, la Ligue des Champions, justement, on va prendre un peu de hauteur sur l'Europe, Inès, avec en deux mots, donc cette Women's Champions League, qu'est-ce qu'il faut en retenir ?
Alors, cette Champions League, ce qu'il faut en retenir surtout, c'est qu'on a des habitués qui ont très bien réussi leur exercice. Le PSG, l'OL, l'Atlético Madrid, le FC Barcelone, Wolfsburg et le Bayern de Munich, ainsi que Chelsea et Manchester, ont gagné leur place en huitième de finale, finalement sans trop de problèmes et en même temps, on les attendait. De l'autre côté, Rosengard, le Fortuna, Yuring, Minsk, Sparta Prague et le ST Polten, encore une fois, j'ai du mal avec la prononciation de certains clubs. Ceux-là sont réguliers de la compétition aussi, on les retrouve assez souvent à ce niveau-là de la Ligue des Champions et ils ont aussi réussi leur qualification pour la plupart avec un écart assez élevé par rapport à à l'équipe contre laquelle elles ont joué. Par contre, il y a une équipe qui est plus en danger, c'est le BIK Kazigurt qui s'est qualifié de justesse finalement avec grâce au fait qu'ils aient marqué un but à l'extérieur donc c'est un club qui va devoir faire attention en huitième de finale. Est aussi à noter je pense l'élimination de Glasgow qui était pourtant arrivé en quart de finale l'an dernier qui aurait pu peut-être se qualifier aussi mais qui n'a pas réussi ces deux matchs, malheureusement. Et puis, de toute façon, pour savoir encore le dernier qualifié, il faudra attendre février ou mars, puisqu'un aller-retour est encore attendu, il a dû être reporté pour cause de mauvais temps.
Nos Françaises, elles sont dans les temps. Aline Riera, voilà, pour l'instant, pas trop de surprises. C'est après, comme vous le disiez, que qu'il peut y en avoir dans le dernier carré de cette Champions League 2020-2021.
Là, vous êtes sur un tirage intégral, donc il peut y avoir des surprises, parce que, mis à part que les clubs d'une même nation ne peuvent pas se rencontrer avant les demi-finales, vous êtes sur un tirage intégral, on l'a vu, hein, la Juve qui tombe tout de suite contre les Lyonnaises, vous auriez pu tomber sur le Bayern directement, il peut y avoir une certaine surprise, mais quand vous regardez les derniers carrés de cette compétition sur les 10 dernières années, vous avez toujours Lyon, forcément, hein. Lyon ou une équipe allemande. Et puis derrière, il y a toujours une surprise. Vous parliez de Glasgow. Glasgow, ils ont bénéficié d'un tirage assez facile la saison passée qui leur a permis d'aller jusqu'en quart. Vous avez des fois des nations qui arrivent à sortir comme ça. Il y a l'Ajax qui est tombé sur Paris, me semble-t-il. Il y a eu des matchs, quelques petites surprises. Mais en général, vous tombez quand même sur les grosses cylindrées, les habitués. Fut un temps, vous parliez de Francfort au départ, fut un temps, Francfort était toujours dans le dernier carré. Là, c'était Wolfsburg. Maintenant, ça va sans doute être le Bayern. Nous, c'est toujours Lyon. Paris qui essaye petit à petit de grappiller, mais qui malheureusement est obligé de tomber sur les Lyonnaises en demi-finale parce qu'on peut pas. Le tirage est obligatoire d'être comme ça. Donc voilà, c'est nous on vote tout de suite pour un dernier carré avec deux Françaises et puis une obligation d'avoir un club français en finale parce que cette représentativité, parce que cette formation-là française, parce que cette structuration de notre D1, pour l'instant, on arrive encore à contrecarrer, vous l'avez dit, tous ces championnats émergents, espagnols, italiens, les Allemands, bon, ils ont l'expérience, les Anglais. On verra, mais moi, je suis contente de pouvoir commenter des matchs d'un bien meilleur niveau parce que jusqu'à présent, cette Ligue des Champions se retrouve avec des clubs, même en quart de finale, qui étaient vraiment d'un niveau assez faible et ça donnait des scores très fleuves. Aujourd'hui, il y a déjà des scores serrés dès le départ sur des grosses équipes, par exemple les Lyonnaises qui se font accrocher à la Juventus. Bah voilà, des matchs comme ça, nous, on en redemande un peu, surtout à commenter, c'est quand même plus sympa.
Et puis la fatigue va jouer également, le Covid cumulé avec le championnat, Ligue des Champions, ça aussi ça va jouer.
Oui, forcément, à un moment donné, il va falloir être bon dans le turnover, il va falloir essayer de ne pas avoir trop de casse. On a vu les Lyonnaises quand même en difficulté par moment, avoir 3-4 titulaires sur le carreau, sur des petits pépins musculaires, avoir du mal à revenir, mettre des joueuses au repos. Il faut savoir que les Lyonnaises, elles ont enchaîné la finale à Champions League et puis ensuite la préparation, un peu moins de vacances qu'avant, des joueuses qui ont beaucoup joué. Donc, vous avez une joueuse qui se blesse à l'entraînement, vous avez Adai Gerberg qui se reblesse sur une blessure grave, donc il faut une opération de nouveau. Il va falloir être bon pour les entraîneurs et les staffs pour gérer la fatigue, vous avez raison, pour concerner un maximum de joueuses, parce que quand on aura besoin d'elles, il faut qu'elles soient à 100%. Si vous laissez toujours les mêmes joueuses sur le banc quand vous avez besoin d'elles, eh ben, elles ne sont pas au niveau. Donc, il faut peut-être, je ne sais pas, faire comme certains gros clubs, avoir une équipe de Ligue des Champions qui ressemble quasiment toujours aux 11 mêmes, puis une équipe pour jouer la Coupe de France, puis une équipe pour jouer le championnat avec quelques joueuses qui sont toujours là dont on a besoin. Mais vous l'avez dit, il va falloir faire en sorte... alors, il y a un peu le hasard, c'est la Covid, hein, ça. Vous êtes positif, malheureusement, c'est votre meilleur joueur, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas le faire jouer. Donc ça, c'est un peu aléatoire. Le reste, normalement, les staffs sont suffisamment bien formés pour gérer, pour être dans la prévention de la blessure, pour essayer d'aller au bout des compétitions dans lesquelles vous êtes engagé. Là, je pense aux Lyonnaises, aux Parisiennes. Voilà, on a vu la capacité des entraîneurs à faire souffler les cadres quand il y avait besoin.
Voilà, voilà un petit peu pour le tour d'Europe. On va finir, puisque c'est Noël, hein, bientôt. On enregistre le podcast le 23 décembre. C'est bientôt Noël, donc on va finir avec une belle histoire. Ça va être Inès qui va nous raconter ça. Entre les deux. Allez, on termine avec du positif. Inès, tu as une histoire à nous raconter. On se dirige du côté de l'Argentine.
Tout à fait, Léo. Direction l'Argentine, où début décembre, Mara Gomez a pour la première fois disputé un match de championnat national avec son équipe Villa San Carlos, comme ils l'appellent là-bas. Celles et ceux parmi vous qui nous suivent régulièrement savent de qui il s'agit. C'est la première femme transgenre de l'histoire à participer à la Primera División Argentine. Donc Mara Gomez, elle rejoint comme ça le club assez restreint des sportifs et sportives professionnelles transgenres qui peuvent finalement se compter sur les doigts des mains, à l'échelle mondiale. Il y en a peu des personnes qui ont réussi à passer au-delà des préjugés, au-delà de certaines restrictions au niveau des fédérations ou d'autres législations. Mais comme on voit, le combat pour les droits des personnes non cisgenres en général, pas que les transgenres, continue donc, et peut-être qu'on est sur une bonne voie pour l'avenir.
Dans le sillage de cette histoire, et puisque tu es un petit peu notre mère Noël, Inès, tu as compilé le meilleur de cette année 2020, parce que oui, il y a eu du bon malgré tout dans cette année 2020.
Effectivement, pour ma chronique hashtag mi-temps de décembre, j'ai décidé de finir l'année sur du positif. Alors, c'est difficile de faire un épisode bilan 2020 sans mentionner la Covid. C'est difficile d'être optimiste après une telle année. On le sait, hein, les effets de la pandémie ont eu de nombreux impacts négatifs qui ont été reportés par le rapport FIFPRO. Je vous les ai présentés dans ma chronique du mois dernier, d'ailleurs. C'était des difficultés économiques pour les clubs et les joueuses, des problèmes de santé en série, des dysfonctionnements au sein des institutions dans la valorisation du foot féminin. Le bilan est lourd et pourtant, malgré ça... malgré une année plus que compliquée, on peut aussi en tirer certains enseignements positifs. Place donc à ma chronique Bisounours. Car oui, des événements joyeux, on en a eu cette année malgré tout. Ils valent le coup d'être rappelés pour montrer que même si elle a ruiné cette année, la pandémie n'a pas tout gagné. On l'a vu tout à l'heure avec la nouvelle de Mara Gomez, mais ce n'est pas tout. La pandémie n'a pas empêché, par exemple, le Brésil, l'Angleterre et la Sierra Leone d'annoncer l'égalité salariale entre leurs sélections masculines et féminines. Ou encore l'Inde, d'obliger les clubs de football à avoir une équipe féminine, obligatoirement. En Italie, la pandémie n'a pas empêché non plus la fédération italienne de commencer à travailler avec le gouvernement pour professionnaliser le championnat féminin. Dans le même genre, la Fédé argentine a mis en place aussi un plan de 5 ans pour la professionnalisation de sa D1 à elle. La pandémie n'a pas empêché non plus la NWSL et les associations de joueuses américaines de renégocier les salaires et d'autres bénéfices en faveur de ces footballeuses. La pandémie n'a pas empêché Nike d'adapter ses contrats de sponsoring avec toutes ses athlètes pour assurer leur congé maternité et la FIFA a fait de même en autorisant les congés maternité pour ses joueuses. La pandémie n'a pas non plus empêché de parler des droits LGBT dans le foot féminin, avec au premier plan Pauline Perromanien qui avait évoqué, on s'en rappelle, le sujet sur les réseaux sociaux en faveur de la banalisation des relations homosexuelles dans le débat public. La pandémie n'a pas freiné, et au contraire d'ailleurs, la création de l'APFP, l'Association pour le football professionnel féminin, et son soutien économique pour les clubs de D1. C'est aussi en cette année de pandémie que la FFF a dépassé les 200 000 licenciés EES, donc féminines. La pandémie n'a pas empêché les footballeuses de s'épanouir dans leur vie privée. Ça peut sembler un petit peu plus anecdotique, mais On peut noter les mariages d'Eugénie Le Sommer ou encore des stars américaines Ashlyn Harris et Ali Krieger qui avaient fait pas mal parler à l'époque. Du même acabit, Megan Rapinoe s'est fiancée avec la star de basket Sue Bird. Et en femme très productive, elle s'est aussi improvisée youtubeuse pendant le confinement et a sorti un livre. Et puis la pandémie n'a pas non plus empêché Alex Morgan de donner naissance à sa fille et puis de reprendre les entraînements et la compétition quelques mois à peine plus tard. Mais surtout, s'adapter à cette crise mondiale nous a obligés à mobiliser le meilleur de nous-mêmes. On a vu de nombreux gestes de solidarité des clubs et des joueuses pour venir en aide aux soignants ou encore des supporters qui se sont mobilisés pour aider leur club, en particulier financièrement. On a aussi vu une créativité nouvelle dont on fait preuve staff et joueuses du monde entier pour continuer à s'entraîner à domicile, pour garder la forme, l'effort de toutes et tous pour essayer de garder le contact avec ses amis, ses proches en général, malgré la distance. C'est donc une des pires années de nos vies qui se termine, mais il ne faut pas oublier de rester optimiste parce que même dans les pires moments, on peut trouver de l'espoir. Restons donc positifs pour une année 2021 qu'on vous souhaite être merveilleuse.
Ça fait du bien quand même d'entendre ça, ça fait du bien d'entendre tout ça, c'est quand même joyeux. Qu'est-ce que vous retenez, vous, les autres, de cette année 2020 ? Aline Riera, qu'est-ce que vous retenez, vous qui avez été sur le terrain, puis en cabine, qui ne pouvait plus trop vous déplacer, mais qui continuait à voir assidûment des matchs ?
Bah, je retiens effectivement le positif de ce message, c'est que malgré cette pandémie, le sport continue à avancer. Malgré la pandémie, le sport féminin continue d'avancer, de progresser, d'être de plus en plus reconnu. Alors la pratique du football, forcément, qui me tient un peu plus à cœur, mais j'ai envie de dire de plus en plus de gens qui regardent la finale de l'Euro féminin de hand, qui regardent et qui suivent la Coupe du Monde qui a lieu chez nous. Enfin voilà, il y a vraiment une progression dans les mœurs, dans les mentalités. Vous l'avez dit, pour le droit des joueuses, des femmes, des LGBT, de tout ça, on est en train d'en parler de plus en plus. Et je pense que c'est ce qui ressort de positif, que ce soit la solidarité, que ce soit toutes ces choses-là qu'on avait un petit peu oubliées. Pour moi, cette année 2020, ce sera ça. Ce sera une année extrêmement difficile pour beaucoup de gens. Mais malgré toutes ces difficultés, il y a quand même du positif à en retirer. Et j'ai bien aimé ce petit bilan parce qu'il faut rester positif et essayer d'avancer malgré tout et toujours y croire. C'est le titre du livre d'Olivier Giroud que j'ai eu l'occasion de lire. Je vous le recommande. Et franchement, c'est vraiment un exemple. J'aime beaucoup ce joueur. C'est vraiment un exemple. Il peut s'appliquer à plein de gens. Toujours y croire, c'est tellement important. Moi, je m'éclate dans ce que je fais pour commander les matchs. Je m'éclate de plus en plus parce que le niveau est vraiment de mieux en mieux. Et voilà, il faut aussi des gens comme vous pour parler un petit peu de tout ça, des choses un peu plus anonymes et mettre un peu de joie dans ces moments difficiles. Donc voilà, ce sera le bilan de 2020.
C'est beau, c'est une belle chose à dire et on va essayer de continuer. Les autres, Marie, Léo, Antoine, en un mot, qu'est-ce que vous retenez de ce 2020 ?
Inès, tu parlais tout à l'heure de l'accouchement d'Alex Morgan et il y a la FIFA qui a récemment annoncé l'approbation des 14 semaines de congé maternité pour les femmes. On a trop souvent vu des femmes abandonner, arrêter prématurément leur carrière pour justement fonder une famille. Et je pense que là, on est encore à un autre niveau. On franchit une étape dans l'intégration de la vie des femmes à leur carrière.
Antoine ?
Non, je rejoins ce qui a été dit. Effectivement, c'est une année de un peu voilà de transition post Coupe du Monde, mais où on a senti quand même que qu'il fallait maintenir cet engouement, qu'il fallait maintenir ce regard, que ce soit un regard curieux ou un regard de passionné qu'on avait par rapport au foot féminin et au sport féminin de manière générale. Et effectivement, bah on ne peut qu'espérer que ça continue pour 2021 avec l'échéance des Jeux Olympiques et les échéances qui viennent par la suite.
Léo.
De mon côté, en tant qu'ancien arbitre, je vais mentionner les belles performances de Stéphanie Frappard et le fait qu'elle soit de plus en plus appelée à officier pour des matchs de haut niveau, notamment dans le football masculin. Je pense que c'est une excellente nouvelle et c'est l'excellente nouvelle du développement général de la pratique féminine. C'est si ça peut susciter des vocations. Je pense que notre engagement à tous, notamment dans l'équipière, c'est aussi un combat plus général pour davantage d'égalité. Et c'est important, nous, à l'équipière, on essaye de médiatiser la pratique féminine du football, mais aussi pour simplement montrer à des jeunes filles qu'elles ont le droit de jouer au football. C'est pas une pratique qui est réservée aux hommes. Et j'ai eu le souvenir, moi, dans mes formations d'arbitre, où on était 30 hommes et une seule femme. Mais finalement, si Stéphanie Frappart peut aussi participer à, on va dire, féminiser l'arbitrage, ou en tout cas montrer que l'arbitrage est ouvert à tous et à toutes, c'est une excellente nouvelle.
Voilà pour un bon bilan. En effet, c'est bien. Vous avez... On voit le côté positif à l'Équipière et pourvu que ça continue, il est temps de conclure aussi ce podcast l'année 2020 avec donc ces bonnes notes. Entre les deux. On espère vous avoir donné de quoi débattre dans les discussions de fin d'année, parce que bon, le Covid, Amazon et toutes les autres thématiques d'actualité, ça va deux minutes. On peut parler de foot féminin, on peut en parler positivement comme on a vu, on peut se remémorer des belles choses qui se sont passées cette année. On vous souhaite évidemment une belle fin d'année et un bon début d'année 2021 également. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous écoutez, bien sûr, ça nous aide aussi. Ce podcast est naissant, c'est son troisième épisode. Il y a des imperfections, mais on est fiers de vous le présenter et on va toujours tâcher de faire mieux pour continuer à vous intéresser et à vous faire vous intéresser au football féminin. Merci à vous, particulièrement Aline Riera, d'avoir pris du temps pour nous. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne continuation.
On vous souhaite une très bonne saison à vous sur Canal+, entre D1 et Première Ligue, surtout là en ce moment avec le Boxing Day. Vous avez d'autres perspectives en vue au-delà de Canal+, d'autres projets ?
Bah, moi, les projets, je ne vois que les commentaires pour l'instant. Moi, je m'éclate et je m'amuse beaucoup dans ce que je fais. La Première Ligue, on le dit, hein, c'est un des plus beaux et des meilleurs championnats. Je mets autant de travail et de plaisir dans un match de D1 qu'un match de Première Ligue ou qu'un match de National. Donc, encore beaucoup de commentaires. Peut-être, pourquoi pas, Canal va récupérer les droits de la Ligue 1, peut-être, j'espère. Donc, pourquoi pas commenter un peu de Ligue 1. Mais voilà, me diversifier. Et puis, je voulais vous dire de continuer dans ce que vous faites. Ce n'est pas évident. Il n'y a pas toujours les retours. Mais on a besoin de gens comme vous, de petites fourmis, entre guillemets, qui deviendront plus grands, qui vont grandir. Donc, vous revenez quand vous voulez. Je donnerai un coup de main avec plaisir. Et surtout, prenez soin de vous tous, parce que c'est important.
Ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, surtout pour voilà. Inès, Marie, Léo, Antoine, merci à vous, la team de l'Équipière, pour ce podcast. On se retrouve en 2021 pour de nouveaux épisodes.
Bien sûr.
Au rendez-vous. Ce podcast sortira au moment des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année plus généralement. On vous les souhaite évidemment géniales et joyeuses. On vous souhaite aussi une très belle année 2021, avec du football bien sûr, mais surtout la santé. La santé, c'est le plus important. Merci à tous, belle journée ou belle soirée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et prenez soin de vous. Ciao.
Les lignes, le podcast de l'Équipière qui raconte le football féminin du vestiaire au terrain.